Bonjour. Bonjour bien-aimé, comment allez-vous? Ça va? Oui, bien, tout le monde va bien? Toujours avec sa grâce. C'est bon? Toujours avec sa grâce. Merci à notre Dieu qui nous a accompagnés en ce matin et qui nous a accompagnés tout au long de la semaine et qui nous accompagnera encore durant ce culte que nous allons lui offrir. Notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi avec notre joie, notre reconnaissance, parce que tu as renouvelé en nous ce souffle de vie, et pas seulement pour ça. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, parce que nos vies sont entre tes mains. Du jour où tu nous as permis de venir à toi, Seigneur, nous te sommes reconnaissants, parce que tu nous as mis à part, tu nous as fait passer à l'autre bord, et nous sommes en sécurité, et ce pour l'éternité. Gloire te soit rendue, Dieu trois fois saint. Tu es Dieu, nous sommes tes enfants, nous sommes entre tes mains. Dispose de chacun de nous, dispose de chacune de mes sœurs, dispose de chacun de mes frères, dispose, Seigneur, de chacun de tes enfants et même de tes créatures. Parfois, Dieu trois fois saint, nous ne comprenons pas ce qui se passe, mais tu es Dieu et tu règnes pour l'éternité. Toi le souverain maître, toi le divin Seigneur, gloire te soit rendue en ce matin. Prends le contrôle de toutes choses et que ce culte soit agréable à notre Dieu, à notre Père, au Fils bien-aimé. Conduis-nous par l'Esprit, Seigneur, et que nous puissions te louer avec force, avec joie et reconnaissance. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, le Seigneur nous dit, dans sa parole, « Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera dans ma bouche. » C'est ce que nous devons faire par obéissance à notre Dieu. Le psaume 34, verset 2, « Je veux bénir l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Et le psaume 104 nous dit « Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel tant que je vivrai. Je veux célébrer mon Dieu tant que j'existerai. » Tant que nous avons ce souffle de vie bien-aimé et que nous avons conscience de ce que Dieu a fait pour nous, alors que nous puissions le louer, que nous puissions l'adorer, car lui seul mérite cette adoration. Amen. Nous allons chanter, nous lever, et nous allons chanter « Viens, ne tarde plus ». Comme vous pouvez le constater, nous n'avons toujours pas de musicien, mais ce n'est pas grave. Nous allons chanter de tout notre cœur, avec nos mains, avec nos pieds. Et que chacun chante individuellement pour le Seigneur. C'est vrai que nous sommes ensemble, mais puissions-nous nous positionner devant le Seigneur et lui offrir ce que nous avons à lui donner en ce matin. Viens, ne tarde plus, adore.
Amen.
Viens, ne tarde plus, adore. Viens.
Toute langue
viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu.
Tels que nous sommes, venons devant le trône de la grâce, présentons-nous avec sincérité de cœur pour l'adorer, pour lui donner notre cœur. Oui, un jour, toute langue dira « Tu es Dieu » et nous le proclamons déjà. Un jour, tout genou fléchira, nous le faisons déjà. Mais ces deux phrases nous préparent quand nous serons avec lui dans le royaume des cieux. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi, qui t'ont déjà choisi, qui tu choisiront encore. Et même maintenant, si nous n'avons pas fait la paix avec le Seigneur, il est grand temps de le choisir dès aujourd'hui. Amen. Amen. Nous apporter la couronne. Il l'a conquise sur la croix à Golgotha. Il est le roi des rois, n'est-ce pas?
Amen.
Et nous allons demander à nos corps, à nos âmes, de le bénir, de l'adorer, de l'acclamer. Avec la multitude, Jésus Emmanuel. C'est le prochain chant à l'agneau sur son trône.
À l'agneau sur son trône, apportons la couronne. Il l'a conquise sur la croix. Suprême à celui qui nous aime et qui
chant.
Il est vraiment beau ce chant. Il est le maître souverain au-dessus de toutes choses. Et les temps sont en sa main. Mais rendons l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Un jour nous le verrons. Nous ne savons pas quand. Hein. Nous ne savons pas quand. Mais comme il est parti, il reviendra sur la nuée, victorieux. Et il établira toutes choses, il accomplira toutes choses. Il ouvrira les cieux pour chacun de ses enfants. Et pour l'éternité, dans la paix, dans la joie, nous allons apporter notre adoration. Marque d'obéissance à ce Dieu trois fois saint. Marque d'allégeance à ce Dieu trois fois saint. Il est le roi des rois. Et si nous nous éveillons matin après matin, si nous le bénissons, si nous l'adorons, si nous acclamons son saint nom, c'est une grâce de Dieu. Amen. C'est une grâce de Dieu. La parole de Dieu nous encourage encore en ce matin. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Le psaume 150. Que tout ce qui respire, même les corbeaux qui font beaucoup de bruit et que parfois on a du mal à supporter le croassement. Mais c'est la création de Dieu. Même la mouche qui nous embête, même l'araignée. Ma fille qui me dit qu'il ne faut pas écraser l'araignée. Oui, mais voilà quoi. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et même le vent quand il passe dans les feuilles, ce bruit que nous entendons. La louange à notre Dieu. Dieu n'avait pas besoin de nos bouches, puisque la création le faisait déjà. À l'agneau. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Et parce qu'il est venu, les ténèbres ont reculé. Parce qu'il est venu, son sang a coulé pour nous et il nous a donné la vie en abondance. Amen. Tous les anges louent sa sainteté.
Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Ses louanges à l'agneau
volé.
Il est vivant. Te louant ce matin, que ton peuple te dise merci. Moi, la première, je te dis merci pour ce souffle de vie. Merci parce que tu me tiens. Malgré la fatigue, malgré la nuit difficile, mais je suis là, nous sommes là, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer. Reçois en ce matin, reçois de ton peuple, ici à Créteil et partout dans le monde. Reçois, bien-aimé, ô Père, reçois notre adoration, notre louange pour cette vie que tu nous as donnée. Tout va bien, Seigneur, malgré les aléas de la vie, tout va bien parce que notre espérance est en Jésus-Christ, tout va bien, que ton peuple puisse te louer en ce matin, Amen. Amen, car il est glorieux et digne de régner, c'est le prochain chant que nous allons prendre. Gloire, gloire à l'agneau, l'agneau est souverain et nous élevons la voix pour l'adorer. Et juste avant la prédication, le message, nous allons chanter « Mon cœur t'adore ». Chantons, bien-aimés, « Gloire à l'agneau ». 3, 4.
Gloire, gloire, gloire. Gloire.
Cœur l'adore en ce matin, notre Dieu tout-puissant, nul n'est comme lui. Notre cœur l'adore, prince de paix, c'est ce que nos cœurs désirent. Alors glorifions notre Dieu, car il est notre sainteté à tous. Notre cœur l'adore, ce Dieu puissant, trois fois saint, nul n'est comme lui. Mon cœur t'adore.
Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, prince de paix, c'est ce que mon tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant, nul n'est comme toi.
Mon cœur t'adore,
mon cœur t'adore, mon Dieu.
Dieu est un Dieu puissant, vivant, un Dieu qui mérite toute notre adoration. Je remercie Lovely et Anaël en ce matin. Merci mes sœurs. Merci à la présence de chacun. Je vais appeler Raymond et je vais prier avant. Merci à Sarah aussi. Notre Dieu, notre Père, notre adoration, elle est pour toi ce matin. Elle est Dieu trois fois saint, uniquement pour toi, parce que toi seul es digne de louange, d'honneur et de gloire. En ce matin, ta parole va être ouverte. Puisses-tu nous instruire, puisses-tu nous reprendre, nous corriger, nous redressons si nous sommes courbés. Puisses-tu nous guérir au travers de ta parole, nous délivrer des liens qui nous empêchent d'avancer. Pardon. Ta parole, source de vie, meilleur remède que l'homme puisse connaître, que nous puissions ouvrir nos oreilles pour entendre ce que tu as à nous dire au travers de ton serviteur. Bénis-le, conduis-le, qu'il soit abaissé et que toi seul sois élevé, au nom puissant de Jésus. Amen.
Bonjour. Merci à tous pour cette première partie du culte. Savez-vous pourquoi on nous appelle protestants? Vous savez, vous êtes des protestants. Non. C'est parce que l'une des raisons, c'est que nous avons protesté contre l'Église universelle que Jésus-Christ était le seul chemin. Une des raisons, parce qu'il y a plusieurs autres raisons. Et les protestants que nous sommes ont protesté et nous avons gagné. Voilà pourquoi il y a l'Église universelle catholique d'un côté, puis les protestants évangéliques de l'autre, ou adventistes, tout ce qui n'est pas catholique. D'accord? Et dans 2 jours, on fête chez les catholiques ce qu'on appelle l'Assomption.
Je parle au conditionnel. La montée de Marie au ciel. Alors préparez vos papiers et crayons, il y aura des textes à écrire. Vous savez, l'évangile est une, par définition, la bonne nouvelle du salut pour quiconque croit. N'est-ce pas? Et vous savez, quand on se convertit, on dit, ah, pourquoi on m'a pas dit ça plus tôt? Pourquoi c'est maintenant que je découvre? Et c'est là qu'on chante, Jésus-Christ nous a ouvert les yeux et nous a ouvert les cieux, parce qu'on était enfermés dans les ténèbres. Et je me souviens, quand je me suis converti, j'étais assez jeune, j'avais une vingtaine d'années, on va de maison en maison, on témoigne, on évangélise, et j'arrive devant cette dame qui est en train, je ne sais plus ce qu'elle y prêchait, et je lui parle de Jésus. Il ne faut pas parler de la religion, il faut parler de Jésus, Jésus-Christ. Et il me dit, oui, ce que tu dis là est vrai, mais il y a aussi Marie. Il y a Joseph, il y a la Sainte Vierge Marie, elle m'a donné tous les saints et saintes. J'ai dit, bon, d'accord, c'est moi. Marie, mère de Dieu ou mère de Jésus? Ça, c'est la question, première question. Elle est mère de Dieu ou mère de Jésus? Parce que si elle était mère de Dieu, pourquoi on n'adore pas Marie? Parce qu'elle serait logiquement venue avant Dieu. C'est la poule et puis l'œuf. Vous avez fait la preuve. Mais 15 août, fête de l'Assomption, et je me suis posé la question et je me suis dit finalement, il y a eu quatre qui sont montés au ciel, enlevés comme ça. Deux dans l'Ancien Testament et deux dans le Nouveau. Vous voyez de qui je parle? Il y a eu Enoch, Élie, Jésus-Christ. Et puis on a ajouté Marie. Mais qu'est-ce que la Bible dit concernant l'enlèvement de Marie? Nothing, rien. Alors, où est sortie cette doctrine et où sont les textes, où sont les témoins de l'enlèvement de Marie dans la Bible? Il n'y en a pas. Mais en tout cas, sachez que ce qui fait la force de l'Église catholique romaine aujourd'hui, c'est la tradition. C'est toutes ces dates, tous ces rituels qui sont là et qui alimentent pour permettre aux uns et aux autres de rester là, dans la bêtise, pour ne pas dire dans les ténèbres. On va faire un peu d'histoire biblique aujourd'hui. Je crois que j'ai dit, prenez de quoi écrire. Comme ça, vous allez revoir chez vous. On aura beaucoup de textes à lire et le premier texte, l'un des évangélistes qui raconte la venue de l'ange auprès de Marie, se trouve dans Matthieu chapitre 1 à partir du verset 18. Matthieu 1, verset 18. Vous savez, il y a toute la généalogie qui précède et puis il y a cet ange qui vient au-devant de Marie. Matthieu chapitre 1, verset 18. Vous l'avez trouvé, c'est projeté dans la version de la Colombe. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Stop. Comment ça peut se faire? Vous avez une jeune fille chez vous, elle est fiancée, et elle fait un bébé dans le dos du gars. Me suivez? Vous êtes sûr, parents, qu'elle est vierge, parce que le mot ici est utilisé est vierge. Vous, parents, avant d'arriver aux parents, vous êtes Joseph. Vous faites quoi? Ben oui, il y a la confusion parce que je sais que je ne t'ai pas touché. Alors, enfin, de qui? Et ça me fait penser à des parents qui ont emmené leur enfant, leur fille à, chez le médecin et puis l'enfant grossit et ils ne comprennent pas. Et le médecin dit, mais votre fille est enceinte. Il dit, mais non, qu'est-ce que vous racontez? Mais non, c'est pas possible, elle est vierge, elle est chez nous. Ok? Alors le médecin va au devant de la vitre et il regarde. Il se promène et il attend. Et il dit, mais médecin, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais la dernière fois que j'ai entendu ça, c'était la Vierge Marie. Donc c'est encore une manifestation du Saint-Esprit. Mais on va se plaindre, on va dire, pauvre Joseph. Mais réaction envers Marie, c'est de traiter Marie de malhonnête. Tu lui as fait ça, pauvre Joseph, un garçon si gentil. Hein? On l'aurait méprisé, maltraité, voire lapidé, parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est notre génération, nous sommes humains. Et cette génération, aujourd'hui, n'est pas pire que celle d'avant. Hein? Vous allez voir. Le texte de Luc, nous le verrons plus tard, l'autre texte qui parle de cette naissance. Nous continuons au verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, un homme juste. Il ne voulait pas la diffamer, il se proposa de rompre secrètement avec elle. Oui, on va faire ça en catimini. C'est pas simple pour Joseph. Et j'ai envie de dire, c'est un scandale, hein? Mais Dieu aime les scandales. Dieu aime les choses folles de ce monde pour nous confondre. Vous allez voir qu'il y a d'autres scandales dans la Bible. Joseph décide de garder Marie parce que, bon, c'est l'action du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je fasse? Bon, que veux-tu que je fasse? Verset 20, comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie avec toi, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Pourquoi je dis c'est un scandale? Parce qu'à l'époque, le Saint-Esprit n'était pas personne connue dans la Nouvelle Alliance. Sous la Nouvelle Alliance, parce que n'oubliez pas que Dieu avait fermé le ciel pendant 400 ans. Pas de prophète, personne qui parle aux hommes. Et brusquement, tu me parles du Saint-Esprit. Pas simple. Verset 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète Isaïe. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ah, c'est pas Jésus? C'est Emmanuel. Ce qui se traduit Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait annoncé et il prit sa femme avec chez lui, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Vous lisez la Bible pour la première fois, vous dites c'est la confusion, hein? Hein? Vous comprenez pourquoi les gens sont si réticents quand on leur parle de lire la Bible? Bon. Mais la Bible dit vrai. La Bible ne se contredit pas. Allons dans Ésaïe chapitre 7. J'ai dit, on fait un peu d'histoire. Ésaïe chapitre 7, c'est le prophète qui, 8 siècles plus tôt, a parlé de cette Vierge et a parlé de ce Emmanuel, Dieu avec nous. Sauf que la Vierge dont parle Ésaïe, c'est pas la même Vierge du Nouveau Testament. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que le terme utilisé littéralement, c'est la femme. La femme est enceinte. Et il était question de la femme du prophète Ésaïe. Quand il est dit que tu prendras ton fils, ton premier fils avec toi, et le deuxième fils va venir après. Maël, Shahar. Vous avez des prénoms dans la Bible, même pour vos enfants futurs. Chaël. Et donc, au chapitre 7, cette prophétie arrive et dans une histoire avec le roi Ahaz. Allez au verset 10. Le roi Ahaz, c'est le petit-fils du roi Ozias, l'un des meilleurs rois du territoire de Juda. Vous me suivez? Ahaz, par contre, c'est le pire des rois. Il n'a pas suivi la trace ou les traces de son père, de son arrière-grand-père. Et au verset 10, l'Éternel parle de nouveau à Ahaz et lui dit, « Demande en ta faveur un signe de l'Éternel, ton Dieu. Demande-le soit dans les cieux, soit sur terre, dans les lieux élevés ou dans les lieux en bas. » Qu'est-ce qui se passe? Il y a des nations qui se préparent à aller combattre Ahaz. Ahaz tremble et il ne veut pas consulter l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il dit au verset suivant, « Je ne demanderai rien à l'Éternel, je ne mettrai pas l'Éternel à l'épreuve. » Et de dire, « Je ne vais pas tenter Dieu, je ne vais pas le provoquer, je ne vais pas aller au-delà. » Or, Ahaz, parce que je dis c'est un mauvais roi, ignoble, il faisait passer les enfants, les bébés par le feu, il faisait des sacrifices au lieu, etc., etc. C'était pas, il avait suivi la voie de Jéroboam. Jéroboam qui était un autre roi du Nord et qui avait décidé de faire à sa manière. Et le peuple marche dans une situation difficile. Et la situation ici, elle est critique. Et d'où les prénoms des fils d'Ésaïe. Vite au puage et désastre de l'autre côté. Et donc, le roi va arriver et il va dire, mais non, laisse faire. C'est-à-dire, laisse la situation pourrir. C'est pas comme ça que nous fonctionnons dans notre génération actuelle. On laisse pourrir les choses. On préfère marcher dans les ténèbres plutôt que de faire appel à Dieu. Ahaz dit, je ne vais pas bousculer Dieu. Combien aujourd'hui nous bousculons Dieu en faisant des jeûnes par-ci, des jeûnes par-là, des prières, on crie à Dieu parce que, Seigneur, hey, tu dors là. Ça fait des mois que je te prie pour une situation. Ahaz dit, mais non, laisse faire, laisse revenir. Mais Dieu est plus entêté que nous. Ésaïe dit, alors écoutez-moi, maison de David. Est-ce trop pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille ou la femme est enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Il n'est pas question ici de Marie. Or, c'est un signe prophétique qui va se manifester 8 siècles plus tard. Vous me suivez? C'est compliqué, je sais. Mais la prophétie d'Ésaïe vient plus tard, quand vous allez au verset 14, quand nous venons de lire, mais au chapitre 8, verset 8, 8 à 14, chapitre 8, juste la page à côté, 8 à 14, Dieu a décidé de prendre les choses en main pour ne pas laisser son peuple Juda dans la situation en bas. Il ne va pas laisser détruire son peuple. Et Dieu dit, il se tournera contre Juda, il inondera et débordera, il atteindra jusqu'au cou le déploiement de ses ailes, il remplira l'étendue de son pays, de ton pays, ô Emmanuel. Poussez une clameur, peuple, vous serez terrifiés. Prêtez l'oreille, vous tous, au plus lointain de la terre. Préparez-vous au combat. Vous serez terrifiés. Formez des projets, ils seront anéantis. Dites une parole, elle ne se tiendra pas. Car Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, mais Dieu aussi est contre nous. Dieu peut être au milieu de nous, mais il peut être contre nous. Et l'histoire d'Israël nous le montre. Dieu va jusqu'à utiliser des non-chrétiens, des païens, pour terrasser son peuple. Et puisque Ahaz ne veut pas provoquer Dieu, il ne veut pas tenter Dieu, il ne veut pas mettre Dieu à l'épreuve, Dieu dit, je vais prendre les choses en main. Et vous allez voir qui est Dieu. Je serai au milieu de vous, contre vous et pour vous. Et au verset suivant, au verset 11, car ainsi m'a parlé l'Éternel, dit Esaïe, quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple, vous n'appellerez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration, vous ne craindrez pas ce qu'il craint. Et vous ne le redouterez pas. C'est l'Éternel désormais que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre. C'est lui que vous devez redouter. Alors il sera un sanctuaire. Ce n'est pas ce qui est dit dans le Nouveau Testament quand il est dit qu'il est terrible de tomber entre les mains de Dieu. Si vous entendez tout ça aujourd'hui, vous méprisez, il sera terrible. Le jour de l'Éternel, parce que Dieu dans sa colère est comme un feu dévorant. La Bible ne se contredit pas. La Bible s'explique d'elle-même. Toujours au chapitre 8, pardon, au chapitre 9 plus loin. Non, chapitre 8, verset 14, que je n'ai pas lu, pardon. Il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils. Ah non, pardon, je suis retourné au chapitre 7. C'est verset 14 du chapitre. Ainsi, il sera un sanctuaire, un rocher qui fait trébucher, une pierre de malheur. Je répète. Ésaïe 8, verset 14. Il sera une pierre de malheur, un rocher qui fait trébucher. Il est question de Jésus comme un rocher de scandale, n'est-ce pas? Il est là pour faire chuter. Et lui-même le dit qu'il sera au milieu de nous comme celui qui va mettre la division dans les familles. Il dit, je ne suis pas venu mettre la paix, je suis venu mettre l'épée. C'est un peu ce qui va se passer. Quel est le rapport avec Marie ici? Allons dans Luc chapitre 1. Cette prophétie d'Esaïe va venir renforcer l'intervention de l'ange Gabriel auprès de Marie. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière, dit le texte. Pardon, Luc chapitre 1er. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu va intervenir. À partir du verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. Vous voyez les nuances qu'apporte Luc par rapport à Matthieu. L'ange lui dit, n'aie pas peur, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit, waouh. C'est ça? Non? Marie dit à l'ange, mais c'est pas possible, Seigneur, puisque je ne connais pas d'homme. Preuve qu'elle était vierge, bien que fiancée. Ce qui n'est pas le cas chez nous. De toute façon, aujourd'hui, vous le savez, vous pouvez toujours ignorer, mais il y a des choses qu'on ne peut pas cacher trop longtemps. Un ventre qui pousse. Marie dit à l'ange et comment cela peut se faire? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, voici la servante du Seigneur, ou sous-entendu, voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange s'éloigna d'elle. Nous découvrons la soumission de Marie d'un côté ici, la soumission de Joseph de l'autre côté, la soumission de Zacharie également, Marie d'Élisabeth de l'autre côté. Parce que c'est à Zacharie que Dieu s'est présenté, l'ange s'est présenté, plutôt 6 mois avant. Je peux vous faire une gymnastique encore dans Ésaïe chapitre 9. C'est pourquoi il faut avoir sa Bible. Hein? Ésaïe 9. Il est dit au verset 5, ou bien je lis pour vous, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix, et Ésaïe s'arrêtera parce qu'il a d'autres noms. Lion de Juda, saint, etc. Un fils nous est né. 8 siècles avant, Jésus n'est pas né. Vous êtes d'accord avec moi? C'est prophétique. C'est un type de Jésus. Et ici, dans notre texte, quand nous regardons les interventions de l'ange, c'est le même ange qui vient auprès des deux dames, Élisabeth a trouvé grâce plutôt auprès de Dieu parce qu'elle était stérile de la Bible. Toute femme a envie d'enfanter, d'être mère, n'est-ce pas? Et Dieu lui a fait une grâce dans sa vieillesse, comme pour Sarah et Abraham. Marie n'a rien demandé, elle veut juste avoir son mari sous les bras et puis advienne qu'il pourra par la suite. Mais Dieu lui fait grâce. Mais à part deux petits échanges dans la Bible entre Élisabeth et Marie et Jean-Baptiste et Jésus, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'échange, il n'y a rien. Ils sont cousins, elles sont cousines. Et pourtant, elles n'habitaient pas à Perpétrésois. Hein? Elles étaient à quelques kilomètres. Elles pouvaient se voir. Jean-Baptiste n'arrête pas le ministère de son cousin Jésus parce qu'il dit qu'il est plus grand que moi. Grand dans sa personnalité, grand dans tout ce qu'il est. Parce qu'il est avant moi, Jean-Baptiste. Il dit, on ne comprend rien. Mais vous connaissez la suite de l'histoire parce que 9 mois d'attente. Qu'est-ce qu'ils se disent, Joseph et Marie? Ils ne cherchent pas un prénom, ils ont déjà un prénom. Mais comment on va faire pour vivre avec le Saint-Enfant de Dieu à nos côtés? C'est quelque chose, hein? Parce que vous portez un enfant, vous dites, mais c'est une fille, un garçon, parce qu'on a les échographies maintenant qui peuvent démontrer ça. Mais quel type d'enfant il sera? Quel genre d'enfant? Soumis ou rebelle? Personne ne peut le dire, même si vous cherchez le plus joli des prénoms bibliques. Un enfant, dès son jeune âge, il montre qui il sera. Hein? Et souvent, il va chercher très loin dans les gènes, hein? Dans son caractère. On dit, ah, c'est pas Ishmael. Et pourtant. Mais la vie est ainsi faite. Et dans Luc chapitre 2, quand le moment vient pour accoucher, ils sont obligés de fuir Hérode. Et encore un scandale, c'est le Saint-Enfant de Dieu qui est obligé de fuir et puis il n'y a pas de place pour eux dans un hôtel. Luc chapitre 2, il vient le moment où l'enfant est présenté, sans oublier tous ces gens particuliers qui sont venus apporter des trésors particuliers, des cadeaux, d'où ils viennent ces gens-là pour notre enfant. Bon. Ça pose des questions. Chapitre 2, verset 33. Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de Jésus. Siméon, il est béni et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et comme un signe qui provoquera la contradiction. » Un sujet de scandale et en même temps un rocher. Vous vous souvenez dans Ésaïe? « Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. annonce à Marie que tu vas souffrir. Elle qui était la bienheureuse va devenir la malheureuse par la suite. Vous connaissez une maman qui ne souffre pas avec ses enfants. Pas tous, ils ne sont pas tous pareils, mais bon, à un certain moment, il dit, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et plus ça grandit, plus l'enfant révèle sa nature, son comportement, sa conduite, et plus on se pose des questions. Tu es vraiment le fils à ton père, toi. Punaise. Et on se dit, mais jusque ça quand? Mais Marie savait. Marie avait-elle oublié? Non. Parce que Jésus, l'ange lui a dit, cet enfant sera là pour sauver l'humanité. Donc elle sait tôt ou tard que cet enfant ne sera pas elle. Elle sera pas, mais bon, vous savez, une mère, c'est une mère. Hein. Elle connaîtra la souffrance comme toutes les mamans. Nous ne savons pas grand-chose de Jésus ensuite, entre 0 et 30 ans. Si, quand même, à 12 ans, on le cherche et il fait comprendre une première piqûre à Marie. Mais pourquoi vous me cherchez? Vous savez qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Pourquoi vous me cherchez? Ça veut dire, je suis déjà parti. Il n'a pas fugué. Il est parti s'occuper des affaires de son père. Et Marie va prendre un premier coup d'épée dans le cœur. Chapitre 12 de l'évangile de Jean, aux noces de Cana, piqûre de rappel pour Marie. Vous connaissez l'histoire. Ils sont à un mariage, le vin vient à manquer, et Marie dit, hey, fiston, fais quelque chose. Et qu'est-ce qu'il répond à Marie? Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Alors, prenons ça dans le sens négatif. Aujourd'hui, tu diras à ta mère, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Dégage, sors de ma chambre! Ça existe aujourd'hui ou pas? D'accord, vous êtes d'accord avec moi. Là, on te dit, mais... C'est compliqué, hein? Qu'est-ce que tu as à me... C'est pas ça. Jésus est poli, Jésus est soumis aussi à sa mère. Et observez qu'en dépit de tout, il fait comprendre à Marie, « Mon père ne m'a pas encore donné le feu vert. Patiente, maman. Attends. Attends. » Mais, enfant soumis, il obéit quand même. Et c'est le premier miracle. Mais quand même, ça a fait du tort un peu à Marie. Hein? Marie dit, d'accord, tu as raison. Ce n'est pas un manque de respect. Hein? Qui attire entre toi et moi? Ça veut dire, je n'ai pas d'autre d'avoir sauvé de toi? Ce n'est pas ça. Hein? Mais le moment n'est pas venu. Mon heure n'est pas venue. Et Matthieu chapitre 12, verset 46, un peu plus loin. Matthieu 12, 46. Vous savez que Marie a eu d'autres enfants. Vous savez ça? Comme on dit chez nous, une tchole. Il y a eu des fils et des filles. Matthieu, chapitre 12, 46. Jésus, alors qu'il est en train de prêcher, on vient lui dire, comme Jésus parlait encore à la foule, verset 46. Sa mère et ses frères se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères se tiennent dehors et cherchent à te parler. Et vous connaissez la réponse cinglante de Jésus. Mais les parents sont parfois bizarres. Hein? Certainement, il a fumé leur machin, là, hein? Fumé la moquette. Hein? Il est devenu fou, il commence à déraisonner, il perd la tête. Il est fou, allons chercher. On ne parle plus de Joseph là. Joseph peut-être est déjà décédé, on ne sait pas. Mais ses frères et sœurs sont là. Et on donne toute la liste de Matthieu chapitre 13 plus loin. Mais il dit, allons chercher, il est devenu fou. Quand vous êtes entré à l'évangile, vous avez commencé à parler de l'évangile, qu'est-ce que vos parents vous ont dit? Aïe, tu es entré dans le machin là? Tu n'as pas perdu la tête un peu? On t'a mis là. C'est là qu'il faut rester. C'est dans la religion ou dans la relation. Ça fait une différence. Et je me souviens, quand je me suis converti, j'étais le premier de la famille, même si j'avais des oncles et puis peut-être mon grand-père qui était chrétien. Ouh, toi aussi, tu es entré là-dedans. Et j'ai vu, grâce à Dieu, presque toute ma famille venir. Des frères et des sœurs, excepté deux qui sont témoins de Jéhovah. Mais la réponse cinglante de Jésus au verset 48 est « Mais qui est ma mère ?» Waouh, coup d'épée dans le cœur. Et qui sont mes frères et sœurs? Sinon, ceux qui sont là et qui font la volonté de mon Père. Voilà mes frères et sœurs et ma mère. J'aurais été à la place des frères et sœurs et de ma mère. J'aurais plié bagage et puis... Parce que c'est un vent, hein, comme on dit chez les jeunes. Waouh! Mais Marie continue, et on va retrouver Marie, même à la résurrection, avec son fils. C'est quelque chose de compliqué. Et quand Jésus fait ce rappel, il sait que faire la volonté de son Père, comme il avait déjà dit au verset 2 à 12 ans, c'est accomplir la mission pour laquelle il a été envoyé. C'est Jésus qui a été envoyé, c'est pas Marie. Il est venu nous enseigner à croire en lui, ou comment croire en lui. Si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, crois en son fils bien-aimé, pas croire en Marie. Le confesser comme sauveur et seigneur et pas confesser comme maman mon Dieu. Quelqu'un m'a dit une fois, tu sais pasteur, parfois je fais un coup de Marie, hein. Jésus prend trop de temps. Jésus prend trop de temps de je prie Marie. Et vous savez, c'est toute la vie religieuse est conditionnée par Marie. Mais quand on devient chrétien, ma vie doit être conditionnée par Jésus-Christ et pas par personne d'autre. Même pas par la vie de mes parents. Mais Jésus-Christ et Jésus-Christ, c'est le seul chemin. Et aujourd'hui, on m'a dit, oui, mais bon, je vous salue Marie, pleine de grâce. Et parfois, je dis, déjà pleine de grâce. Vu le temps qu'elle est là. Hein? Mais aujourd'hui, observez qu'il n'y a rien comme commandement de la part des apôtres, de Jésus-Christ, de Dieu, rien dans la Bible, qui justifie le rôle de Marie. Autrement, elle serait montée quand? Nous avons une date approximative pour l'enlèvement de Jésus, c'est 40 ans après la Pâque. Ah, d'accord, il y a deux élèves qui suivent. Non, je fais silence, je dis, mais ils ne suivent pas ou quoi? 40 jours. Et 50 jours après, c'est la Pentecôte. Mais il n'y a rien dans la Bible qui dit que Marie est montée à une date précise. Et si elle est montée, comme on dit, elle est où là-haut? À faire quoi? Okay, nous savons que Jésus est assis à la droite de Dieu et que nous sommes assis en Christ. Marie est assise où? Et pour faire quoi? La plonge? Et donc, nous devons nous poser toutes ces questions. Et comprendre que rien dans les Écritures ne dit que Marie a une place d'honneur dans le ciel, que Jésus est aussi mort pour elle. Et si c'était Marie qu'il fallait adorer, Dieu n'aurait pas eu raison d'envoyer Jésus-Christ. Et donc nous avons matière pour contester aujourd'hui ceux de les membres de notre famille qui veulent à tout prix que qu'il y ait une division entre nous et les catholiques parce que nous n'obéissons pas à Marie, nous n'adorons pas Marie. Et il y a de ceux qui sont sortis du milieu catholique et qui sont devenus charismatiques. C'est un chemin intermédiaire entre les protestants et les catholiques. Et vous discutez avec les charismatiques, vous vous trompez, hein, presque. On dit, ah, ce sont des frères, oui, c'est vrai. Mais il y a encore Marie là au pied. Faites attention, il n'y a qu'un seul chemin une seule personne qui occupe l'attention de Dieu depuis sa naissance, bien avant la fondation du monde, jusqu'à son retour glorieux, c'est Jésus-Christ. Nous ne savons pas quand il reviendra, mais il reviendra et nous avons cette assurance. Mais jamais la Bible ne nous parle du retour de Marie. Je crois que l'une des dernières mentions de Marie dans la Bible, c'est dans Actes chapitre 12, où les disciples étaient en train de prier, et puis on n'entend plus parler de Marie. On n'entend plus parler d'elle. Ça ne veut pas dire qu'elle est montée au ciel. Autre bêtise, hérésie de l'Église catholique, c'est quand Pierre quitte la ville, on dit Pierre est allé à Rome et il est devenu le pape. Il n'y a rien qui dit ça. Donc, on est appelé protestant parce que nous protestons ces choses-là. Et nous devons savoir où nous sommes, où nous allons. La doctrine de l'Assomption date seulement de 1950, 20e siècle. 1950, pas très loin. Or, nous savons que Jésus-Christ, bien avant la fondation du monde, il avait déjà reçu sa mission. Il y a une semaine, il y avait les GMG. Vous avez entendu parler? Tous ces catholiques jeunes qui se sont rassemblés au Portugal. Et le pape a cité des poètes des environs et d'autres stars ont parlé aux jeunes. Et les jeunes ont vécu ça comme un moment intense. Et j'ai lu sur un journal, un quotidien en France, que le pape a appelé les gens à être des bâtisseurs de ponts, des artisans de paix. Et il dit dans... je lis, mais je ne vais pas vous lire des bêtises. Nous avons besoin des bâtisseurs de ponts et d'artisans de paix dans sa patrie orientale. Mais aussi en Afrique. Bon, je vais repartir. Il dit, pour parvenir, je vais annuler tout ça, pour parvenir à l'infini, et je crois que nous pouvons y parvenir, Dieu c'est l'infini, n'est-ce pas? Nous avons besoin d'un port, d'un seul, sûr, et de là, partir vers l'infini. Jolie définition de l'Église qui mène au Christ. Jolie définition de l'Église qui mène au Christ. Vous voyez, avec des paroles comme ça, on peut tromper encore le monde. Certes, nous avons besoin d'un port et d'un lieu d'attache. Mais c'est Christ qui nous mène à l'Église. Vous voyez, si on lit ça, on dit, ok, amen, ils sont dans la vérité. Mais c'est Christ qui sert de passerelle, de pont, qui nous mène, qui nous intègre dans l'Église. Et nous devons faire attention. Quand nous disons oui, il croit en Dieu, oui, il croit en Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il fait de Marie? Acte 4, verset 12, on l'a cité ce matin. Il n'y a aucun autre nom, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous n'avons pas à avoir honte de contester. La Bible dit, celui qui aura honte de moi ici-bas, j'aurai honte de lui là. Oui, ils vont à l'église, ils croient, ils lisent la Bible. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait de tout ce qu'il lit, de tout ce qu'il fait? Et pourquoi la Bible insiste sur le fait que nous devons naître de nouveau? C'est Jésus-Christ qui est monté, c'est lui que nous attendons sur les nuées. Si vous attendez quelqu'un d'autre, je ne suis pas dedans. Dieu le Père nous a envoyé le Fils. Le Fils nous a envoyé le Saint-Esprit, Consolateur. Et le Saint-Esprit tourne nos regards vers le Fils, pas vers Marie. Le Saint-Esprit tourne nos regards vers le Fils, c'est vers son œuvre expiatoire. C'est lui le Rédempteur, c'est lui le Sauveur, c'est lui qui nous a rachetés de la vaine manière de vivre. Et aujourd'hui, je n'ai pas le droit de le supplanter par Marie ou par quelqu'un d'autre. Et trop souvent, nous donnons, que ce soit au pasteur, que ce soit à Marie, que ce soit au prêtre, nous les mettons là, sur un piédestal. Jésus-Christ seul, un seul chemin, un seul médiateur, un seul nom, par lesquels nous puissions être sauvés. Alors si dans deux jours, on vous invite à adorer Marie, c'est l'Assomption, dites non. Parce que j'ai déjà Jésus. Et ajoutez, s'il vous plaît, Jésus-Christ. Parce que de Jésus, on en trouve partout au Portugal et en Espagne. Mais il y a un seul Jésus-Christ. Je ne vous apprends rien. Mais il y a un seul nom, Jésus le Christ, le Messie, l'envoyé. Et nous devons faire attention à ce que nous accomplissons ici-bas comme œuvre, parce que nous sommes sauvés en Jésus-Christ et nous sommes assis en Jésus-Christ et nulle part ailleurs. Que Dieu nous aide, chers frères et sœurs, à avoir une bonne assise en Christ et à faire attention à ce que nous lisons et croyons, parce que nous serons comme Eutychus, assis entre deux chaises ou sur le bord de la fenêtre, et tôt ou tard on bascule. Il y a de ces doctrines tellement solides, entre guillemets, ici-bas. Discuter avec les témoins de Jéhovah, les Mormons, les Rastas, ils sont assis dans ce qu'ils croient. Et si vous n'êtes pas bien assis en Christ, vous basculez. Soyez bien assis en Jésus-Christ. Le seul chemin. Dieu avec nous, c'est lui, Jésus-Christ. Amen.
Amen. La Bible nous dit, Romains 11, verset 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Amen. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Jésus-Christ. Je vais inviter Lovely et Anaël à revenir pour que nous puissions chanter « Jésus, c'est le plus beau nom ». Et ensuite, je demanderai à Watson de passer le panier pour les offrandes. Jésus, c'est le plus beau nom. Merveilleux Sauveur. Seigneur de gloire. Emmanuel, Dieu est avec nous. Source de joie, parole de vie. Jésus, parole de vie. La Bible, parole de vie, tout, nous avons tout en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Chantons bien-aimé, Jésus c'est le plus bon nom.
Jésus c'est le plus beau nom.
Emmanuel, Dieu est avec
source de joie, parole de vie,
tous ensemble comme un.
Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie. Source de joie, parole de vie,
source de joie,
source de joie, parole de vie.
Alléluia. Waouh. Jésus, c'est le plus beau nom. Ouais. Ce nom qui sauve, ce nom qui libère, ce nom en qui nous avons l'assurance, l'espérance. Nous avons la vérité. Nos cœurs qui sont tordus et méchants, hypocrites. Moi, la première. Quand tu dis à un enfant, « Oh, je t'aime, hein? » et tu lui demandes le service après. C'est pas de l'hypocrisie, ça? Non, mais c'est pas de l'hypocrisie, ça? Je t'aime, mais fais ça pour moi. C'est pas franchement bien aimé, c'est de l'hypocrisie. Nous sommes tordus, hein, n'est-ce pas? Mais gloire soit rendue à Dieu, qu'il a envoyé le Fils bien-aimé, notre grand frère, Jésus, pour que tous ceux qui l'invoquent aient la vie sauve et rentrent dans la bergerie. L'amour de Dieu manifesté en son Fils bien-aimé. Le sang a coulé, son corps a été meurtri, percé. Il a rendu le dernier soupir pour nous donner la vie. Amen. Et nous sommes assis avec lui, dans les cieux, en esprit, et un jour, peut-être demain, peut-être tout à l'heure, peut-être dans 1000 ans, parce que 1000 ans est comme un jour pour le Seigneur, nous avons l'assurance, parce que ce nom merveilleux, nous l'avons invoqué avec sincérité de cœur dans notre détresse. Nous avons l'assurance que nos yeux le verront. Amen. Nous serons avec lui, sans hypocrisie, sans ce cœur et ce corps qui seront même plus là, corps glorifié. Dans la félicité. Raymond a parlé tout à l'heure de témoins de Jéhovah. Aux Antilles, c'est très courant. Ici, un peu moins parce qu'il y a des codes, il y a des digicodes, donc le témoin de Jéhovah a du mal à rentrer dans le hall. Mais là-bas, il y a du monde, il y a quelqu'un, et ils sont déjà là, et toi, quand tu veux fermer la porte, il n'y a jamais tes pieds là. Bon. Et toutes ces revues, c'est intéressant. C'est intéressant de lire. La tour de garde, parce que j'ai fait pas mal de devoirs de philo hein, aussi, hein, avec les revues de témoins de Jéhovah. Bon, je vous le confesse, hein, mais bon, j'ai eu des bonnes notes. Hein. C'est la philo. Mais dans toutes les brochures, il y avait le lion. Ils mettent le lion assis à côté d'un petit enfant. C'est vrai. Et nous serons comme ça dans les cieux. Bon, on va rejeter hein, la doctrine des témoins de Jéhovah. Mais pour vous dire, bien-aimés, que quand nous serons avec lui, plus de peur, plus de crainte, plus de maladie. Le faible sera fort et le fort sera humble. Nous serons tous ensemble, assis, je ne sais pas comment, mais avec lui. Parce qu'il nous a sauvés. Amen. Gloire à lui. Prenez place, bien-aimés, prenez place. Merci à Naël et à Lovely. Merci à Watson. Je vais appeler Claude pour la fin de notre culte. Priez pour les offrandes. La bénédiction. Bénissons-nous jour après jour. Bénissons-nous. Nous avons besoin de ces encouragements. Parce que celui qui est timide, qu'on aille vers lui. Que celui qui n'a pas la même couleur de peau, qu'on aille vers lui. Une fois, Rebecca, elle m'a interpellée, elle m'a dit, maman, ce sont des âmes à sauver. On parle de musulmans, on parle de ceci, on parle de cela. Ce sont des âmes à sauver, comme vous. Hein? Vous n'êtes pas en haut, vous n'êtes pas en bas. Je ne suis pas en haut, je ne suis pas en bas. Parce que Jésus est mort pour tout un chacun. Amen. Que Dieu bénisse Watson qui a passé le panier des offrandes et que Dieu bénisse Claude qui finira le culte.
Merci. Un seul nom qui a été donné, un seul baptême, un seul sauveur, pas deux, Jésus-Christ. Merci Raymond pour ton message. On va prier pour les offrandes. Notre Père, notre Dieu, nous te louerons, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. Et nous te disons encore merci pour ton amour manifestant Jésus-Christ. Que toute la gloire te soit rendue encore ce matin parce que tu en es digne, Père, d'être élevé, magnifié et exalté. Seigneur, en retour, nous te disons merci, Seigneur, pour ces offrandes. Cela vient même de toi parce que c'est toi qui donnes, Seigneur, la santé pour aller travailler, gagner, Seigneur, à la sueur de notre front, Seigneur, mon Dieu. C'est toi qui pourvois dans chaque vie, dans chaque corps, dans chaque situation. Nous te disons merci, Seigneur, pour ces offrandes que nous avons accueillies. Cette offrande, Seigneur, puisse servir à l'avancement de ton règne ici-bas à Créteil, Seigneur, mon Dieu. Nous savons que sans cet argent, Seigneur, nous ne pouvons pas avancer. Alors, Seigneur, merci pour ceux qui ont pu donner, ceux qui n'ont pas pu donner, Seigneur, mon Dieu. Tu connais toutes choses. Alors, Seigneur, que ceux et celles qui vont se servir, Seigneur, de cet argent, cette offrande, Seigneur, ce sera pour l'avancement de ton règne. Que toute la gloire te soit rendue, Père. Nous te disons merci en retour pour tout. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous demande de vous mettre debout pour la prière finale. Le Seigneur Jésus-Christ, avant son arrestation, dit à ses disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur Jésus-Christ vous environne. Que cette paix d'esprit puisse nous habiter pleinement. Que la grâce du Seigneur repose sur vous et sur vos proches. Vivons avec la paix du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On va passer par ce moment d'annonce. Monsieur Agnès ? Okay. D'accord. Bien, donc les annonces du dimanche 13 août 2023.